Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir le tout nouveau lauréat du prix de l'intelligence économique CED 3AF pour son ouvrage qui est paru au Seuil, Les États en guerre économique. Ali Laïdi, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous recevoir sur notre antenne et bravo pour cette brillante distinction. Vous êtes accompagné de maître Yves-Marie Moret, qui est donc l'un des organisateurs et qui est président de l'association Culture, Économie, Défense, le CED. Bonjour maître.
Bonjour président.
Merci de vous retrouver. Alors, on va peut-être, avant de rentrer dans le sujet, vous présenter un peu plus. Alors, Ali Laïdi, vous êtes journaliste à France 24. Vous êtes responsable de l'émission du Journal de l'intelligence économique, qui est diffusée en trois langues. Vous êtes docteur en sciences politiques et chercheur à l'IRIS, qui est déjà pas mal. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'intelligence économique et vous avez fait paraître de nombreux ouvrages sur le sujet au cours des dernières années, et particulièrement...
Alors, Les secrets de la guerre économique en 2004 au Seuil, et ainsi que deux autres ouvrages sur ma deuxième spécialité, qui est le terrorisme.
Parfait. Alors maintenant, on va peut-être replacer ce prix, avant de rentrer dans le sujet lui-même de votre publication, replacer donc ce prix de l'intelligence économique CED 3AF dans son contexte. Peut-être, maître, vous pouvez nous rappeler donc quels sont les organisateurs, les objectifs de ce prix et le palmarès.
L'association Culture, Économie, Défense, que je préside depuis 1997, est une des toutes premières associations créées en France en matière d'intelligence économique et stratégique, dont Alain Juillet, ancien haut responsable français d'intelligence économique, était président d'honneur jusqu'au terme de son mandat. Le prix qu'Ali Laïdi a reçu des mains de Madame Lamère de Reims et Vinazan le 6 octobre a été conçu à la fois par l'association Culture, Économie, Défense, mais également par l'association 3AF, qui rassemble presque totalité des entreprises françaises du secteur de l'aéronautique, qui est donc une société savante, présidée par Michel Scheller. Et nous avons souhaité, pour cette deuxième université d'été, la première avait été organisée à Paris, donc la seconde à Reims, je dirais la deuxième, car il y aura une troisième dans quelques temps, organisée à Reims au mois d'octobre, nous avons souhaité récompenser l'excellence. L'excellence s'inscrit dans la durée. La durée s'envisage au niveau de l'enseignement en matière d'intelligence économique, au niveau de la production littéraire. Nous avons, au sein de notre comité de lecture, lu à plusieurs une vingtaine d'ouvrages et nous avons souhaité choisir deux livres récents parus sur la thématique de l'intelligence économique et récompensés par le premier prix à l'IID car il rédige un ouvrage qui s'intitule « Les États en guerre économique ». Il n'y a pas de guerre économique s'il n'y a pas de compétitivité économique. Je souhaiterais d'ailleurs revenir là-dessus tout à l'heure.
On y reviendra.
Au niveau de la compétitivité, au niveau de l'Union européenne. Et un deuxième ouvrage qui a récompensé une jeune femme qui est professeure d'université à Nancy.
Donc la parité était parfaitement respectée.
C'est une thématique beaucoup plus française. L'ouvrage d'Audrey Knauf, paru aux éditions L'Harmattan en 2010 sur les dispositifs d'intelligence économique. Il est important qu'il y ait une cartographie des acteurs publics et privés pour ainsi définir les perspectives d'avenir. Donc voilà nos deux lauréats, l'un qui est ici présent, la chaise qui est vide en face, celle qui aurait pu occuper Audrey Knauf. Elle nous entrera certainement un prochain jour, donc nous sommes heureux pour ce premier prix d'avoir deux auteurs qui ont inscrit leurs ouvrages dans l'excellence.
Bien, alors maître, il faut peut-être rappeler que ce prix a été remis dans le cadre de la deuxième université de l'intelligence économique et stratégique qui s'est tenue donc à Reims, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, et qui a connu elle-même un grand succès de fréquentation et d'estime.
D'abord, nous sommes accueillis tout à la fois par la mairie de Reims, par le conseil général, par le conseil régional, par toute une série d'acteurs qui comptent en matière d'intelligence économique, chambre de commerce, la DIT, la gendarmerie nationale, la direction centrale du renseignement intérieur. Donc quand vous parliez de parité, on a souhaité également que soit respectée la parité stricte entre gendarmerie et police, qui comme vous le savez, se sont rassemblés au ministère de l'Intérieur 1er janvier 2009. Donc c'était vraiment une manifestation qui s'est inscrite dans l'excellence. La communauté de l'intelligence économique n'est pas très nombreuse en France et nous avons compté sur plus de 200 participants qui ont consacré 3 jours de leur temps, 3 jours de la semaine, à participer à nos débats, qui augurent évidemment d'une prochaine édition qui devrait en principe également avoir lieu à Reims l'année prochaine sur une thématique dont je vous parlerai tout à l'heure.
Alors revenons maintenant sur la parution de notre brillant lauréat, Ali Laïdi, qui, donc on pourrait peut-être résumer votre thème par cette citation « La paix est un état précaire qui n'est jamais que la continuité de l'état de la guerre sous une autre forme ». Alors, est-ce que c'est à peu près ça, votre thème ?
Oui, c'est ça. L'idée était simple. Je voudrais vous dire en 2 mots, d'abord, comment je suis arrivé à l'intelligence et à la guerre économique. Ma première spécialité de journaliste, c'était d'abord le terrorisme que j'ai travaillé à partir de 91, qui était la date où on a stoppé les processus électoraux en Algérie, où sont arrivés les militants du FIS en France. Donc, je me suis intéressé à la question du terrorisme. Et très rapidement, je me suis dit, si je reste dans la question du terrorisme, si je reste dans la question de l'islam, de l'islamisme, je ne comprendrai pas pourquoi des jeunes organisent des attentats. Donc il me fallait une grille de lecture beaucoup plus large pour comprendre. Et c'est à cette époque que j'ai rencontré les problématiques d'intelligence de guerre économique. C'était en 96-97, à l'époque je publiais mes premiers papiers à l'Express où je travaillais. Et là, avec la problématique de la guerre économique, j'avais un cadre beaucoup plus large d'analyse de ce qui se passait dans le monde. Et très rapidement, pour vous indiquer comment j'ai travaillé, depuis 96, je travaille sur le fait d'opposer 2 dates charnières de notre époque. La première, c'est le 11 septembre, 9-11 version anglaise, où on nous dit que maintenant, ce qui régit le monde, c'est le terrorisme. Et moi, je dis non. Je pense que ce qui régit le monde, c'est une autre date qui est également symbolique, c'est 11-9 et non pas 9-11, c'est-à-dire le 9 novembre 89, la date de la chute du mur de Berlin. Donc si on veut comprendre un peu ce qui se passe, il faut repartir de là. Et quand on repart de là, en effet, on s'aperçoit, en gros, pour aller très vite, hein, parce que ce livre fait 300 pages, j'ai fait une thèse dessus. Pour aller très vite, on s'aperçoit tout simplement que, certes, les démocraties ne se font pas la guerre, comme nous disait Fukuyama, mais l'histoire, pour autant, ne s'est pas arrêtée. Et l'histoire a déplacé le centre du conflit, le vecteur du conflit, du terrain militaire vers le terrain de l'économie. Plus besoin aujourd'hui d'avoir des troupes pour débarquer dans un pays en Normandie ou ailleurs et imposer son point de vue. Aujourd'hui, via l'économie, on arrive à imposer un point de vue parce que l'économie permet de modeler les sociétés. Alors, on est d'accord, à partir de 89, là, le cadre général, c'est l'économie de marché. C'est la première fois que l'humanité s'entend sur un cadre général, alors qu'il s'était battu de 45 à 89 sur la bipolarité. Donc en 89, on se met d'accord, on sera tous dans l'économie de marché, sauf qu'au sein de cet accord, qui est en fait la mondialisation et la globalisation, au sein de cet accord, il y a toujours la recherche du leadership mondial sur le monde. Et sur quoi se fait ce leadership mondial ? Sur les valeurs. Celui qui maîtrise les valeurs dans ce monde, maîtrise le monde. Et comment on impose ces valeurs ? Via l'économie. Donc encore une fois, mon propos, c'est pas de partir en guerre dans l'économie. Je redis encore une fois que 90% de l'économie se fait normalement, les relations économiques se font normalement en respectant toutes les règles. Ce qui m'intéresse en tant que journaliste et en tant que chercheur, c'est évidemment les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et c'est sur ça que je travaille. Et je m'aperçois qu'en effet, l'affrontement économique depuis 1989 s'est radicalisé dans un rapport Nord-Nord, parce que c'est de là que démarre la guerre économique, et ensuite dans un rapport Nord-Sud avec l'émergence des fameux émergents. Et je me pose un tas de questions. Évidemment, d'abord, dans mes premiers livres, j'ai montré comment se faisait cette guerre économique. Je donne des exemples.
Les premiers livres, peut-être, Ali, on peut peut-être en rappeler les titres. Le djihad en Europe au seuil 2002. Et la guerre secrète contre Al-Qaïda, collectif, ellipse, dans 2003.
Voilà.
Ah, donc, c'est deux principaux.
Voilà. Et donc, les secrets de la guerre économique en 2004, chez Au Seuil.
Au Seuil.
Voilà. D'accord. Et en 2006, je rédige un livre qui, lui, croise la problématique de la guerre économique et du terrorisme.
Retour de flamme, voilà. Comment la mondialisation a accouché du terrorisme, chez Kamon Levy.
Voilà. Et donc, j'essaie de comprendre pourquoi il y a une radicalisation des rapports économiques, que ce soit entre les entreprises et même entre les États. Qu'est-ce que ça signifie, cette radicalisation des rapports économiques ? Et in fine, ça sera d'ailleurs l'objet de mon prochain livre, in fine, je pose la question philosophique et politique qui est, y a-t-il une limite à la mondialisation ? Je ne pose pas la question de l'altermondialisation, je pose la question de la limite de la mondialisation pour qu'à un moment, les peuples respectent chacun chez les autres leurs propres valeurs. Et le problème de la mondialisation, si elle n'a pas de limite, c'est l'uniformisation des modèles sociétaux. Et cette uniformisation des modèles sociétaux ne fait qu'enrager les perdants Et vous verrez que depuis l'ouverture de ce monde, depuis 1989, s'il y a une région qui n'a rien gagné à la mondialisation, ni en termes économiques, oui, ni en termes de démocratie, non.
Ah bon, alors
c'est le monde arabo-musulman, d'où des réactions d'une extrême minorité, une réaction politique, mais également ultra-violente. Donc il y a bien un lien entre la guerre économique et le terrorisme.
Et pourquoi dites-vous que c'est le monde musulman qui a perdu le plus après la chute du mur de Berlin ?
Il suffit de regarder tout simplement depuis 1989 ce qu'ont gagné les autres ères mondiales. L'Europe de l'Est s'est réveillée sur le plan économique. L'Europe de l'Est est maintenant constituée de démocratie. Idem en Amérique latine, en Amérique du Sud. Idem pour les dragons asiatiques, mais ils étaient déjà partis un petit peu avant. Il y a une région dans le monde qui n'a gagné ni sur le plan démocratique, ni sur le plan économique. C'est le monde arabo-musulman. Même l'Afrique, Dieu sait que l'Afrique souffre de différents. Même en Afrique, on trouve des pays démocratiques et on trouve des pays capables d'avoir des multinationales pour jouer le jeu de l'hyper-compétition économique. Vous ne trouvez pas, vous prenez par exemple les palmarès de la CNUSED, vous ne trouvez pas de multinationales arabes parmi les 100 premières. Comment est-ce possible ? Une région qui a reçu, ne serait-ce qu'en pétrodollars, j'avais fait un calcul très simple, entre 71 et 2002, 3 700 milliards de dollars grâce au pétrodollars. En face, est-ce que vous êtes capable de me nommer un Google arabe, un Nestlé arabe, un Boeing arabe ?
Oui, mais quelles sont les raisons, précisément ? Parce que la mondialisation, ça veut dire que c'est un cadre qui a changé pour tous les acteurs, tous les compétiteurs. Alors, pourquoi, alors que, précisément, le monde islamique a bénéficié, on va dire, d'une rente, notamment pétrolière, entre autres, n'a-t-elle pas, à ce moment-là, profité de ces opportunités ? Enfin, je ne sais pas si ce n'est pas une question, j'espère, indiscrète.
Mais... Non, pas du tout, ouais. Mais c'est une question qui reste posée et à laquelle je ne peux pas répondre.
Alors, ce jour, on n'avait pas...
Travail. Si, évidemment, j'ai quelques idées. La première, quand j'ai étudié l'ensemble des systèmes nationaux d'intelligence économique qu'il y a dans le livre, je parle des États-Unis, du Japon, de la France, de l'Europe, de la Russie, de la Chine. Je vois bien que des pays sont concernés par cette question et mettent en place des systèmes nationaux d'intelligence économique qui permettent à leurs multinationales de conquérir des marchés ou de préserver des marchés. Mmh. Or, si je regarde ce qui s'est passé dans le monde arabo-musulman, je ne vois aucune stratégie à long terme, ni même à moyen terme. Alors, en effet, on nous dit les Arabes ont investi dans Disneyland, ont acheté des grands hôtels, etc. Mais en termes économiques, c'est ce qu'on appelle du capital mort, puisqu'il n'y a pas de retour sur investissement pour ces peuples-là.
C'est des placements, en quelque sorte.
Voilà, c'est des placements, mais c'est pas de retour. Pour les peuples, en termes de développement économique, vous avez vu les rapports du PNUD, qui sont terribles dans les années 2000.
Le PNUD, vous nous répétez ?
Le PNUD, le programme national de l'ONU sur l'éducation, qui sont terribles pour cette région, où on voit bien qu'il y a peu de lecture, qu'il y a peu d'édition, qu'il y a une alphabétisation qui est en panne, etc. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que le terrorisme, de mon point de vue, est plus un enfant de cette mondialisation que lui-même le nouveau paradigme qui remplacerait celui qui est mort en 89, qui est la lutte idéologique entre le camp de l'Est et le camp de l'Ouest.
Alors, on va peut-être demander au président Mouret une réaction sur ce sujet. Je voudrais quand même rappeler, c'est peut-être l'ABC, mais que intelligence économique, c'est plutôt renseignement économique. Enfin, la bonne traduction, en tout cas au moins pour le grand public, et je vois que le président est tout à fait d'accord avec ce que je dis, donc ça me fait plaisir. Donc, répondons à la question, réaction par rapport à ce que vient de dire Ali Laïdi.
D'abord, l'intelligence économique, ce n'est pas uniquement le renseignement.
Non, c'est pas uniquement.
L'intelligence économique, c'est à la fois la sécurité économique qu'assure de manière efficace, efficiente, nos services de sécurité, gendarmerie et police, les services de l'État. C'est une mission régalienne de l'État. L'intelligence économique, c'est également la protection du patrimoine économique de l'entreprise. Et chacun des dirigeants d'entreprise est appelé par tout à la fois cette prise de conscience que l'on a vu émerger au milieu des années 90, lorsque le CED naît. À côté du CED, il y a les cycles intelligence économique de l'IHEDN, Institut des hautes études de défense nationale. Cette prise de conscience du milieu des années 90 fait qu'aujourd'hui, et c'est une initiative société civile milieu des années 90, nous avons une politique publique d'intelligence économique. Et que les services de l'État français, et très certainement dans les autres États membres de l'Union européenne, il y a une formation qui est donnée aux dirigeants d'entreprise pour qu'ils assurent eux-mêmes la protection de leur patrimoine économique, que ce soit en termes de brevets, que ce soit en termes de marque, que ce soit en termes de recherche et de développement. Donc, l'intelligence économique, ce n'est pas uniquement du renseignement, même si au point de départ, la technique était fort semblable à celle de la captation d'éléments comme on le fait en matière militaire. Je voudrais réagir sur ce qu'Ali vient de dire. Il cherche une réponse. J'ai peut-être une amorce de réponse. J'ai bien aimé cette convergence de chiffres 11 septembre et 9 novembre. C'est vrai que le monde a changé en 20 ans. C'est vrai que nous avons vu apparaître la mondialisation. Mais je pense que la mondialisation ne se résume pas uniquement à une guerre économique ou à une compétitivité économique. Nous sommes appelés à vivre dans quelque temps avec 9 milliards d'êtres humains dans cette planète. Je pense que la mondialisation, c'est d'abord des valeurs à partager ensemble. Il y a un socle de valeurs à l'humanité, que l'on soit chinois, russe, français ou ressortissant d'Amérique latine. Et je pense que la stratégie de l'Union européenne, qui n'est non plus celle du traité de Lisbonne, de la stratégie de Lisbonne, pardon, de 2000, mais une stratégie qui s'appelle Union 2020, Union 2020. C'est extrêmement intéressant, mon cher Ali, je vais te dire pourquoi. Parce que dans cette stratégie-là, qui va occuper non seulement l'Union européenne, mais le demi-milliard d'êtres humains qui vivent en Europe, on va voir émerger une Europe non plus sur un plan simplement institutionnel. Il faut des institutions. Je vous rappelle quand même que l'ensemble des fonctionnaires de l'Union européenne, c'est beaucoup moins que ceux qui travaillent à la mairie de Paris. Donc on fait tourner une boutique d'un demi-milliard avec 32 000 fonctionnaires. Donc c'est très très peu. Et que dans cette stratégie Union 2020, donc pour les 10 années qui viennent, il y a un accent très important mis sur le rôle et la mission de la société civile et des citoyens. La réponse à la mondialisation, c'est une prise de conscience de valeurs qui sont communes à l'ensemble de l'humanité. Et ces valeurs, vous l'avez compris, ce sont des valeurs qui sont fondées sur la culture. Oui, il y a une culture mondiale, avec évidemment des variantes. Il y a une culture religieuse qui est différente de région du monde à région du monde. Il y a une culture mondiale qu'il faut que l'on soit appelé à trouver. Et ce sera sans doute, il y aura toujours des terroristes. Il y aura toujours des gens qui vont faire la guerre. Mais je pense qu'à côté du G20, et vous savez que la France a la présidence depuis une semaine, 15 jours, je pense qu'à côté de ce G20, il faut que nous réfléchissions les uns et les autres, dirigeants d'entreprise, conseils aux dirigeants d'entreprise. Et un journaliste et un auteur est là aussi pour éveiller la conscience des gens par vos livres. Je pense que nous avons des valeurs à trouver en commun pour que l'humanité vive en paix.
Alors, ça sera peut-être une partie de votre prochain ouvrage, si j'ai bien compris, et donc l'objet d'un prochain rendez-vous. Mais revenons quand même sur le cœur de votre sujet. Donc, en réalité, tous les États, c'est ce que vous dites, hein, sont en guerre, entre guillemets, économique, à travers l'intelligence économique. Et alors, dans le prolongement de ce que vous disiez tout à l'heure, j'avais un peu le sentiment, moi, que c'était les pays les plus démocratiques qui se trouvaient en situation de faiblesse par rapport à, c'est-à-dire, cette règle du jeu. La démocratie n'est pas toujours une force, enfin en tout cas sur ce plan. Quel est votre sentiment sur ce point ?
Alors, encore une fois, j'insiste bien. Je pense que 90% des relations commerciales se font normalement. Donc, je ne dis pas qu'il y a une guerre économique. Je dis qu'à partir du moment où on utilise des moyens déloyaux et illégaux pour conquérir ou préserver des marchés, on peut parler de radicalisation des rapports économiques. Si vous voulez, on peut retirer le mot guerre et parler de radicalisation des rapports économiques ou même d'hypercompétition. Alors, je reviens à votre question précisément. Vous dites que les démocraties sont en effet les plus faibles dans la guerre économique. Or, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est qu'au contraire, ce sont les démocraties dans l'histoire récente qui ont le mieux utilisé les techniques d'intelligence économique. Et d'ailleurs, quand le terme arrive, c'est un terme qui est très récent, qui a à peine une vingtaine d'années, et lorsqu'il arrive, début des années 90, il vient d'où ? Il vient d'abord d'une étude qu'on a faite, que les Américains ont faite sur le système japonais à la fin des années 80. Souvenez-vous, la référence à la fin des années 80, c'était pas New York, c'était pas les États-Unis, c'était Tokyo. Donc les Américains se sont posé la question de savoir pourquoi ce Japon qui avait perdu la Seconde Guerre mondiale, qui était occupé, qui ne brillait pas au palmarès des Nobel ou des dépôts de brevets, pourquoi était devenu quasiment cette première puissance économique ? Tout simplement parce que le Japon avait mis en place un système national d'intelligence économique aussi puissant que discret, disait un rapport américain. Donc voilà le guerrier économique qui émane d'une démocratie. Et qu'est-ce qui se passe après la chute du mur de Berlin ? Les Américains estiment que le job est fait et que par conséquent, ils réorientent leurs priorités nationales vers les intérêts nationaux économiques des États-Unis. Et voilà un autre pays démocratique qui va utiliser pour le coup toutes les techniques d'intelligence économique pour permettre aux entreprises américaines de remporter des marchés ou même de les préserver. Et quand je dis « toutes », dans un pays qui se dit libéral et qui a rejeté en théorie le rôle de l'État, certes, peut-être à l'intérieur des États-Unis, l'État est rejeté, mais je peux vous dire qu'à l'extérieur, l'État accompagne systématiquement les entreprises américaines dans la conquête des marchés. Et quand je dis « elle accompagne », ça veut dire que le dispositif administratif, à travers ce qu'on appelle l'Advocacy Center, est au service des entreprises américaines pour remporter des marchés. Et ça va bien plus loin, puisque un certain nombre de rapports de l'Union européenne et du Parlement européen a parlé, notamment à travers le rapport Echelon, qui est un système d'écoute, a évoqué le fait que les Américains utilisaient leur système d'écoute pour mettre sur écoute des entrepreneurs européens dans la conquête de marché. Donc vous voyez bien que là, on dérape lorsque des services de renseignement sont utilisés dans la conquête de marché. On dérape. Alors moi, comme vous voulez, on appelle ça hyper-compétition, on appelle ça radicalisation des rapports économiques, mais ça veut dire quelque chose dans l'état des relations.
Nous ne cachons pas derrière notre petit doigt, ça s'appelle aussi guerre, même si on y met un petit G. La question que je voulais vous poser dans ce prolongement, c'est de savoir dans quelle mesure ce qui relève, on va dire, des grands mouvements économiques, et notamment ce qui est devant nous à l'heure actuelle et qui a peut-être commencé, à savoir, alors là pour le coup, la guerre des monnaies, en quoi cette confrontation pour justement redonner de la compétitivité aux États qui sont en compétition peut toucher, frôler ou être de l'intelligence économique?
Par exemple, vous évoquez la problématique des monnaies. De
c'est la guerre des monnaies. C'est le vrai mot.
Vous voyez que le mot est sorti de la part des chefs d'État, non pas des journalistes, etc. Le mot est sorti pour dire qu'il y a vraiment une radicalisation des rapports économiques à cause des monnaies. C'est très simple. L'intérêt de la Chine, c'est ne pas réévaluer son yuan, parce que sinon elle va avoir un gros problème dans ses exportations, dans ses importations idem. Donc vous voyez que stratégiquement parlant, l'intérêt de la Chine ne correspond pas à l'intérêt de l'Union européenne, des États-Unis, etc. Global. Et il n'y a pas de raison pour la Chine de répondre aux intérêts de l'extérieur. Si on se place dans une perspective du tout compétitif, du compétitif sans limite. Il y a bien un moment où il y a une limite. Et mon travail pose la question de la limite, pas de l'anti-mondialisation. Personne n'est anti-mondialisation. Tout est dans la limite, dans l'équilibre des choses. Et il pose le problème qui est celui du libéralisme, voire de l'ultra-libéralisme, qui a toujours rejeté le rôle de l'État dans les relations économiques. Or, là, on voit bien depuis 2007 que l'État est de retour sur le premier plan pour gérer les relations économiques. Est-ce un bien, est-ce un mal, on le verra.
Alors ça, c'est le problème de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, mais on peut aussi imaginer que cette conscience renouvelée des États puisse favoriser venir une logique coopérative.
Voilà.
On peut peut-être basculer, enfin je veux dire, quelque chose peut entraîner un effet absolument inverse, c'est ce qu'on peut souhaiter. D'autant qu'il y a des rééquilibrages au plan géostratégique et que donc les pôles qui apparaissent sont redistribués avec probablement, c'est ce qu'on croit comprendre, un nouveau paramètre dans les jeux des acteurs, c'est l'émergence d'une classe moyenne monde qui va redistribuer les avantages compétitifs de chacune des nations. Il est bien évident que même si les États-Unis aujourd'hui peinent, l'évolution de la demande en faveur d'une classe moyenne va leur être plus profitable que des pays qui ont quelques difficultés, qui sont par exemple des ateliers du monde. Donc il ne faut peut-être pas désespérer. C'est l'impression ce que notre ami Yves-Marie Moret approuve. Puisqu'il
deux petits points en réaction, puisqu'on réagit aux propos que l'un et l'autre tient. Je dirais qu'il ne peut pas y avoir compétitivité économique ou guerre économique sans respect du droit de la concurrence. Et c'est le juriste qui parle. Quand vous parlez d'écoute, elles sont forcément illégales. Et je n'imagine pas un seul instant que l'Union européenne ne réagisse pas de manière extrêmement énergique à des appels d'offres qui seraient gagnés par des procédés qui sont illégaux. Et l'espionnage est un moyen évidemment illégal de conquérir des marchés. Deuxièmement, à propos des guerres de monnaie, il est la difficulté que l'on connaît, que nos amis grecs connaissent, que les Irlandais connaissent aujourd'hui, comme tous les pays se tiennent évidemment par les prêts qu'ils se sont consentis les uns les autres. La solution est vraisemblablement celle que notre président de la République avait conçue voici 2 ans, tout début de la crise, 2008, c'est de mettre les principaux acteurs économiques autour d'une table et d'arriver, on n'arrivera jamais à un gouvernement économique mondial, mais d'arriver à une gouvernance économique avec la définition de règles très précises à respecter. Donc je dirais, au propos d'Ali, à la fois, le monde se doit d'être dirigé non seulement par l'économie, mais surtout et avant tout par des valeurs que nous sommes appelés à découvrir, à partager ensemble, et deuxièmement, par le fait même de la mondialisation, la nécessité de mettre en place des mécanismes de gouvernance économique qui permettront d'éradiquer les difficultés qu'un certain nombre de pays qui ont fait cavalier seul pendant des années, la Grèce et l'Irlande ont fait cavalier seul, grâce à Dieu. Il y a une banque centrale européenne qui fait parfaitement son travail et je regrette que trop souvent, dans la presse, on lise que tout est de la faute de Bruxelles. La faute est simplement qu'un certain nombre d'États membres n'ont pas joué parfaitement les accords européens qu'ils avaient souscrits pour la plupart, voici 60 ans, à la création de l'Union européenne.
Parfait. Alors, peut-être un dernier propos pour notre lauréat, donc un intermédiaire entre celui qui vient d'être couronné, votre ouvrage qui vient d'être couronné, et puis le futur qui se profile à l'horizon. En synthèse, un message peut-être que vous auriez envie de dire, à, si vous étiez vous au G20, quel serait le message que vous délivreriez à vos partenaires?
C'est celui que vous avez évoqué tous les deux. En fait, c'est un vieux rêve des philosophes comme Maritain. Souvenez-vous, se poser la question de la capacité de l'homme à avoir créé d'abord la SDN et ensuite l'ONU pour régler les problèmes politiques, les problèmes territoriaux avec l'ensemble des pays. Et c'est étonnant de voir qu'on n'est pas capable de faire la même chose sur le plan économique. C'est que assez étonnant de voir qu'on n'arrive pas à s'entendre sur les plans économiques alors qu'on est parvenu à s'entendre plus ou moins, même s'il y a des craquements, sur le plan politique. Donc ça pose un vrai problème de gouvernance mondiale, dont parlait déjà Aron également à son époque, mais qui est un sujet qu'il n'a pas assez traité. Donc voilà, moi, mon prochain livre va porter sur l'histoire. Je veux essayer de comprendre pourquoi la guerre économique est un terme nouveau alors qu'il a toujours été présent dans l'histoire, et ensuite de poser la question de l'affrontement économique par rapport à notre modèle qui est un modèle libéral.
Eh bien, c'est sur ce bon mot que nous allons clore cet entretien. Système de valeurs et coopération, ce sont les voies d'avenir que vous avez tous les deux soulignées pour ce nouveau monde. Une conviction que vous partagez. Et je rappelle donc que nous avons eu le plaisir d'accueillir l'organisateur, l'un des organisateurs du prix de l'intelligence économique CED3AF et le lauréat de cette première session qui est donc Ali Laïdi pour la parution de son ouvrage Au seuil, les États en guerre économique. Bonne lecture à tous. Merci à vous, messieurs.
Merci.